Alors, puis-je dire en introduction que les commentaires que nous avons reçus sur Alag viennent de toute une série de personnes et qu'il y a donc des commentaires très variés. Ceci n'est qu'un résumé très rapide de certains des commentaires qui ont été faits. Ce ne sont pas les nôtres, ce sont les mots qui ont été utilisés par les gens que nous avons interrogés. Donc, je les mets ici sans aucun commentaire, je vous laisse simplement le temps de les lire. Ce sont certaines des perspectives dont nous sommes partis, certains des commentaires qui ont amené évidemment d'autres commentaires par la suite. Alors, ayant eu toutes ces contributions, comment voyons-nous Alag? Nous voyons Alag, Sébastien, je suis désolée, mais si vous ne le lisez pas, ça ne sera pas traduit, donc vous devez lire. Vous devez lire au micro pour que ça soit traduit par les interprètes. Si vous ne le lisez pas, ça ne sera pas traduit. C'était la seule chose que je voulais vous dire. C'est un petit point pratique. Alors, comment est-ce que nous concevons Alag? Alag a deux rôles. D'abord, c'est le moyen pour les utilisateurs individuels de l'Internet de participer au travail de ICANN. Et l'autre, c'est de servir de canal pour assurer la responsabilité de l'ICANN au niveau du monde entier. Et nous allons couvrir ces deux aspects de ce rôle qui sont tout aussi importants l'un que l'autre. Et le travail que nous avons fait, les recommandations que nous avons fournies en tiennent compte. Et puis, Alag a la même culture que celle que l'on trouve de ICANN, c'est-à-dire que c'est une organisation qui est fondée sur le consensus et dont la prise de décision est montante, elle part de la base. Ensuite, ce que je voudrais dire, et ça c'est fondamental dans cette étude, c'est que ce que nous avons examiné, ce que nous avons étudié et ce que nous avons recommandé concerne ce que nous appellerons le nouvel Alag. Jusqu'en 2007, il y a eu un Alag un petit peu transitoire qui s'est beaucoup occupé de développer les institutions, les procédures et Alag. Donc, ça a été vraiment la constitution d'institutions et il a fallu environ 4 ans pour le faire. Maintenant, nous avons ce que nous avons appelé Alag 1.0. Alag 1.0 est en train d'être établi, d'obtenir le respect de tous, d'avoir une certaine crédibilité comme élément qui contribue de manière valable à l'ICANN, qui participe aux initiatives de politique et qui va aider à sa diffusion. Mais ce qu'il y a de fondamental, c'est que Alag 1.0 est différent du Alag temporaire ou transitoire que nous avions avant. Et les attitudes et les procédures que l'on avait dans l'Alag intérimaire ne sont probablement pas adaptées au Alag 1.0 et au Alag futur. Et donc, notre étude ne consistait pas à voir ce qui s'était passé historiquement, mais à voir une perspective sur l'Alag du futur. Nous avons étudié la structure dont nous reconnaissons qu'elle est très complexe. Nous pensons qu'elle a mis très longtemps à se construire et nous nous sommes demandé s'il y avait des raisons vitales à modifier la structure. Nous avons identifié 8 options, vous verrez lesquelles. Certaines qui consistaient à se débarrasser d'Alag, abolir Alag tout simplement. L'autre, de fusionner Alag avec une autre organisation de ICANN ou fusionner avec une organisation extérieure à ICANN. Ou alors, changer le comité consultatif at large en organisation de soutien at large. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de toutes ces options, vous le verrez dans le rapport, mais nous pensons que l'ALAC existant devrait rester comme comité consultatif avec quelques modifications pour améliorer l'efficacité dans certains domaines. Mais on ne devrait pas le démolir, ça a pris assez longtemps à se construire et nous pensons que maintenant que ALAC est capable de se concentrer sur le fond, sur la politique de ICANN, il serait peut-être inutile de passer beaucoup de temps à réviser la structure. Il y a une recommandation que nous avons concernant l'amélioration de l'efficacité d'ALAC dans son ensemble, concerne la présidence. Nous avons remarqué qu'elle changeait tous les ans, voire plus souvent, et nous pensons que c'est trop fréquent. Pour qu'un président ou une présidente soit efficace, il faudrait que cette période, ce mandat de présidence soit plus long. Donc, nous proposons une période de 2 ans. Nous pensons que c'est également tout à fait logique avec le reste des nominations à ALAC. L'un des points les plus importants, qui à notre avis n'est pas bon et s'aggrave, c'est la composition régionale de ICANN. Il y a 5 régions géographiques dans l'ICANN et ALAC reproduit cela. Or, aujourd'hui, ces régions ne sont pas représentatives de la répartition géographique de la population ni de la distribution des internautes. Par exemple, actuellement, les États-Unis ou l'Amérique du Nord ou l'Europe ont une utilisation Internet très élevée en pénétration qui est en train de se stabiliser, alors qu'en Asie-Pacifique, vous avez d'abord des internautes très nombreux et une croissance élevée parce que la pénétration n'en est qu'à 15 ou 20% actuellement. Et donc, il y a un potentiel énorme. Et il y a une disparité, une disproportion qui va s'accroître au cours des années à venir. De sorte que nous avons suggéré, pour les raisons que je viens d'expliquer, nous suggérons que l'on garde les 5 RALO prévus, mais qu'on en nomme 2 de plus à ALAC, les 2 venant de la région Asie. Et ce que nous avons recommandé, c'est qu'ils soient nommés par le comité de nomination ou de sélection. Ce que nous avons dit également, c'est que la structure d'ALAC dans son ensemble est assez complexe. Il y a 5 couches entre les utilisateurs individuels et le conseil de ICANN. Et ça va à l'encontre de des tendances mondiales dans l'organisation de structures. Nous avons essayé de voir les structures at-large, ALAC dans son ensemble, les utilisateurs individuels. Et nous pensons qu'à l'avenir, pas aujourd'hui, à l'avenir, il faudrait peut-être repenser le rôle des RALO, donc des organisations régionales. Laissons-les en l'état pour l'instant. Mais à la prochaine étude indépendante de l'ALAC, il faudrait peut-être se pencher sur la question de ces RALO et voir ce qu'on peut en faire. Ceci dit, il faut quand même donner aux structures existantes la possibilité de se consolider. On nous a demandé également de faire une recommandation sur le bureau de liaison de ALAC ou le comité de liaison, qui reçoit toutes les informations, qui participe aux discussions du Conseil, mais qui n'a pas de droit de vote. Ce comité de liaison avec le Conseil, nous recommandons qu'il ait le droit de vote au Conseil. Et nous avons également vu que cette recommandation a été faite déjà. Il y a donc des informations détaillées dans notre rapport que vous verrez. Notre recommandation, c'est que cette liaison entre ALAC et le Conseil devrait rester en tant que liaison en reconnaissant ce que l'étude non-com a reconnu, à savoir que Le Conseil n'est pas un comité exécutif. Il établit les directions générales, le cadre, il suit les performances, mais en fait, il délègue les activités aux différentes branches, sections et responsables de ICANN. Ça n'est pas un comité exécutif. Et nous pensons qu'à l'avenir, il faudra qu'ALAC puisse influencer cela et essayer de développer un consensus pour les politiques proposées dans l'intérêt de ALAC. Nous pensons que ça a beaucoup plus d'importance sur le fond plutôt que d'avoir un vote au Conseil, un ou deux votes sur 15, 16 personnes membres du Conseil. Nous reconnaissons que dans certaines parties du monde, l'existence d'un siège au Conseil donne une certaine crédibilité, un certain statut, mais nous pensons qu'il y a une autre considération, c'est que avec les règles de ICANN, si les liaisons avec ALAC devaient avoir une représentation au Conseil, ces personnes-là devraient agir dans l'intérêt de toute la communauté ICANN, puisque c'est le mandat du Conseil, et pas dans l'intérêt de l'organisation qu'ils représentent à ALAC. Or, l'influence d'ALAC pourrait de ce fait augmenter et non pas pourrait baisser plutôt que d'augmenter. En fait, l'idée, ce serait qu'ALAC contribue pour parvenir au consensus au sein du Conseil, mais ALAC doit représenter ALAC et non pas se concentrer sur les intérêts de l'ICANN en général.
Par ce biais, la personne qui serait votre membre de liaison pourrait être totalement responsable auprès de l'ALAC. Alors, financement de l'ALAC. Nous sommes d'avis que le financement a été trop bas pendant trop de temps. Il y a eu un certain nombre d'améliorations au cours des derniers mois, notamment. Même au cours de notre examen, un certain nombre d'améliorations ont été apportées au financement de l'ALAC. Vous avez maintenant plus de collègues pour travailler. Mais nous avons, me semble-t-il, besoin de plus de personnel et il faut surtout un appui au sein de l'ICANN, au moins d'une personne par région, ce qui ferait un total de 5 personnes supplémentaires à plein temps, car cela pourrait refléter les différentes activités menées dans différentes régions de l'ICANN et cela pourrait permettre à l'ALAC dans son ensemble d'apporter plus à la rédaction des politiques. Nous sommes également d'avis que la présidence de l'ALAC devrait avoir la possibilité de négocier avec l'ICANN les accords ICANN-ALAC en ce qui concerne les rôles, responsabilités et les responsabilités de ces personnes qui seraient financées par l'ICANN, mais pour appuyer également le travail de l'ALAC. Comme je l'ai dit au début, il faudrait également plus de traductions dans plus de langues pour qu'il soit plus facile ou pour faciliter la participation d'un plus grand nombre aux activités de notre organisation. Voilà donc nos recommandations. Bien sûr, nous avons été mandatés par le Conseil, par le Conseil d'administration à fournir un rapport, à leur fournir un rapport sur l'ALAC. Pour eux, c'est vraiment le début du processus et non pas la fin. La période d'information, de commentaires commence cette semaine. Donc j'espère que j'espère que ce rapport vous a été utile. Bien sûr, nous savons déjà que tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que nous disons. De toute façon, sinon, nous n'aurions pas eu besoin d'un rapport. Néanmoins, nous vous invitons à formuler des commentaires, car le processus à partir de maintenant, deux ateliers, un lundi, un mercredi, vont être organisés. Trisha Drake, préside le groupe de révision. Il y aura ensuite une période de commentaires avant que le groupe de travail fournisse les recommandations en tant que telles pour que d'éventuels changements soient apportés. Donc, merci de nous avoir.
Oh. Shukran. Thank you.
And thank you.
Merci. Merci également pour cette dernière partie. C'est un détail que nous apprécions. C'est surtout quelque chose que nous aimerions voir. Donc maintenant, peut-être la session questions-réponses. Bon, si je n'ai qu'une personne sur ma liste, c'est Robert. Donc je vais maintenant ouvrir la liste des orateurs. Wolfgang, Izumi, Bao. Attendez que je note. Aneta et Benda. Robert. Donc je suis Robert. Tout d'abord, j'aimerais remercier Westlake pour cet examen qui est vraiment un défi. Il y a beaucoup d'opinions, beaucoup de commentaires très différents les uns des autres. Donc c'est quelque chose de très complexe que vous avez dû réaliser. Donc merci d'écouter également nos commentaires maintenant et merci d'avoir pris le temps de parler avec moi. Il a été parfois difficile de coordonner certaines réunions. Mais bon, en vous écoutant, et aujourd'hui et dernièrement, je crois qu'il y a un certain nombre de points à relever. J'ai certaines questions à vous poser après lecture du rapport. Je crois que dans vos commentaires maintenant, vous venez de nous dire de l'Intramelac, le rôle de l'ALAC va un peu au-delà de cela et il y a des élections directes au Conseil et mon commentaire est que certaines personnes perçoivent le rôle de l'ALAC au début comme étant un rôle de représentant au Conseil, il y en avait un par région. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut, il faut passer par le comité de candidature? Et maintenant, ce que vous nous dites, c'est qu'une fois encore, il ne faudrait pas avoir une voix au chapitre. Il semble que notre voix soit un peu mise au silence. Donc, pour certains, au sein de la LAC, nous voulons regagner notre position ou la position que nous avions par le passé. En ce qui concerne les régions, maintenant, je crois qu'il y a une discussion générale au sein de l'ICANN sur les régions. Et je veux essayer d'être cohérent avec les discussions qui se tiennent ailleurs. La LAC, si la LAC va avoir plus de représentants d'une région, il va falloir que cela se répercute ailleurs. Et si nous sommes les leaders pour cela, je veux pouvoir bien l'expliquer, car je crois que cela va avoir des conséquences, bien sûr. Ensuite, comment les consultations ont lieu au sein des différentes régions? Ici, nous avons des représentants de pays anglophones, c'est vrai. Peut-être que nous avons moins de discussions avec le Moyen-Orient, alors qu'ils sont peut-être des internautes très actifs. Donc voilà les défis. Il y a des défis nouveaux et il faudrait que cela apparaisse également. En ce qui concerne l'engagement, vous avez dit qu'il serait peut-être intéressant de prendre en compte le fait que l'Asie est très importante. Il faudrait que plus de personnes soient impliquées. Je crois que si At Large représente les utilisateurs, il faudrait plus d'utilisateurs qui soient intéressés à nos discussions et qui nous fournissent des commentaires, qui nous parlent à nous ou qui parlent en général, etc. Et ça, je ne le vois pas trop dans le rapport. J'aimerais que le Conseil le fasse. Je l'ai mentionné lors de notre réunion conjointe ce matin. En ce qui concerne les différents postes, je sais que certaines personnes ont d'autres commentaires, mais dans d'autres, il ne faut pas oublier la liaison avec le Conseil. Si nous disons que le président devra avoir un mandat de 2 ans, eh bien, je crois qu'il faut absolument une confiance auprès du Conseil, donc la personne représente, qui s'occupe de la liaison aussi. En ce qui concerne la comparaison avec d'autres organes consultatifs, je ne sais pas si la comparaison a été faite, justement. Peut-être que l'ICANN a réalisé des comparaisons. Mais et pour savoir où nous en sommes, quel genre d'organe consultatif, nous sommes un petit comité consultatif. Mais j'aimerais savoir si nous fonctionnons bien, si et il serait bon d'avoir la vision de la communauté au sens large et avoir des commentaires de comparaison, savoir si nous pouvons tirer les enseignements d'autres ou si d'autres voudraient tirer les enseignements de ce que nous faisons. En ce qui concerne l'indépendance, certaines personnes ont dit par le passé ou voulaient savoir si At Large devrait être plus indépendant. Étant donné que nous recevons des fonds, étant donné que nous avons des employés, quelle est la relation exacte? Est-ce qu'ils nous font rapport directement à nous? Est-ce qu'ils ont des allocations, tel un membre du Parlement ou un officiel du Parlement? Voilà les thèmes qui ressurgissent souvent et il serait bon d'avoir les commentaires des autres autour de cette table et savoir comment répondre à ces défis. Donc je lance un peu ces bouteilles et j'espère que cela va permettre au débat de commencer. Je sais que vous avez peu de temps, je vais essayer de répondre rapidement par deux ou trois commentaires. Robert, vous venez de mentionner le fait que l'ALAC n'avait pas de voix au Conseil. Nous ne sommes pas totalement d'accord. L'ALAC devrait avoir justement une voix au chapitre au Conseil, mais cette voix n'est pas forcément devenir un vote. En ce qui concerne les régions, nous sommes tout à fait d'accord avec vos commentaires. Si l'ACAN revoit sa représentation régionale, alors la LAC devrait réaliser un travail cohérent. Mais pour le moment, il nous semble que la représentativité devrait être remise en cause. Et je suis d'accord avec vous, il faut absolument respecter la cohérence. En fait, il peut y avoir des questions similaires, donc je vais essayer de réunir certaines questions. Prenez des notes et ensuite vous pourrez répondre de manière collective, après Bao, par exemple. Je suis Wolfgang Kleinwächter, je suis membre européen. D'un point de vue bureaucratique, cet examen, bien sûr, est pertinent et va probablement nous aider à aller de l'avant en ce qui concerne certains détails, certains problèmes. Mais il me manque un point fondamental, c'est le contexte, la vision. Et je crois qu'il n'apporte qu'un point de vue, qu'une vision. Il manque d'options, d'analyse des choses positives et négatives de telle ou telle option. J'aimerais rentrer dans le détail. En ce qui concerne le contexte, et Robert vient de le mentionner, pour vous, l'historique commence en 2003 quand la décision a été prise avec l'ICANN 2.0 de réformer l'approche dans son ensemble. Et pourtant, l'histoire remonte à plus loin. Il s'agit juste d'un compromis auquel nous sommes parvenus au bout de 5 ans de négociations pour savoir que faire avec cet organe et qu'en faire. Donc, nous avons établi une espèce de compromis d'organe intérimaire pour savoir si cela allait fonctionner. Mais le plan de départ, le plan originel, et je suis surpris que vous n'ayez pas examiné cette partie-là, justement. Car en revenant un peu plus en arrière, on comprend mieux, justement, pourquoi le comité consultatif At Large est né. Il y avait 9 membres de la communauté des utilisateurs et 9 de la communauté des fournisseurs. Ensuite, il y avait un comité consultatif. Et je crois que le rapport fondamental qui a été publié en 1999 est essentiel et qui nous a permis d'aller de l'avant avec ce comité At Large. Ensuite, nous avons les élections, nous avons eu un groupe d'études, nous avons eu un réexamen des élections et nous savons que le 11 septembre a tout changé. Et il y a eu des discussions sur les questions de sécurité, mais le résultat final a été que nous avons dû trouver une manière par laquelle, d'un côté, nous allions sécuriser, pour ainsi dire, les utilisateurs et nous assurer que les bonnes personnes allaient être présentes au Conseil. Je crois que c'était clair. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu un peu une division au sein de la communauté et cela n'apparaît pas dans votre rapport. Certaines personnes étaient prêtes à suivre ce qui était proposé par le Conseil et d'autres étaient contre de manière fondamentale. Non, nous n'acceptons pas cette nouvelle construction étant donné que les utilisateurs sont mis de côté et cela ne donnait plus la possibilité aux utilisateurs de faire ce qu'ils voulaient. Donc le processus, un processus pénible de 5 ans s'en est suivi. Et pour certaines raisons, oui, nous avons dû continuer avec la structure, une structure avec ses faiblesses, vous nous avez dit, les 5 couches. Oui, cela a été critiqué depuis le premier jour. Je me rappelle, les personnes en 2003 nous disaient « Mais ils sont stupides, pourquoi créer une structure de ce type ?» Et cela a été totalement ignoré dans votre rapport. Donc, ce qui est établi a été accepté selon vous. Mais non, cela n'a pas été accepté. Il y a eu énormément de conflits au sein de la communauté at large. Et il y a eu un processus de 4 ou 5 ans avec des obstacles, des résistances. Je me souviens très bien d'une discussion au cours de laquelle nous ne savions pas qui nous allions inviter dans la structure at large. Certaines personnes voulaient créer une organisation régionale at large avec plusieurs structures régionales. Et moi, j'avais dit non, on ne peut pas avoir une Ligue des champions sans champions. Il faut les bons partenaires. Et nous avions dit que nous n'étions pas intéressés. Et cela n'est pas couvert par votre rapport. Et je pense que ça biaise un peu la vision. Les personnes qui ne sont pas conscientes de cette histoire, n'ont pas pris connaissance, ont peut-être une image qui n'est pas correcte. Et en annexe au projet d'accord avec le département américain du commerce, au premier paragraphe, vous dites que l'ICANN devrait devenir un modèle pour d'organisation multipartenaire. Donc quel est le modèle? Le modèle, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire des relations créatives, innovantes entre les différents partenaires. Partenaires, en pensant au sommet mondial de la société de l'information, de l'OCDE, nous avons le secteur privé, la société civile, les gouvernements. Donc si nous voulons avoir un modèle de ce type, il va falloir être un peu plus visionnaire sur le rôle de la communauté at large qui représente la société civile, ce que représente la société civile dans ce triangle, et éviter uniquement les discussions bureaucratiques. Donc je crois que cette vision, vous l'avez complètement ratée, elle n'apparaît pas dans ce rapport. Il n'y a aucun commentaire sur comment parvenir, comment diffuser à tous. Nous avons des structures at large, certes, mais la stratégie n'est pas visible. Comment identifier les groupes clés auprès desquels nous devrions travailler, des groupes d'utilisateurs, d'internautes. Je pense à la discussion de Lisbonne avec les représentants des consommateurs. Il y en a certaines qui sont établies et qui sont... Nous avons une longue liste d'orateurs. Bon, je vais m'arrêter là alors. Et juste dire que je ne suis pas d'accord avec les arguments que vous avez présentés disant oui, il faut que nous puissions parler, mais pas de droit de vote. Il faut une certaine indépendance. Et en tant qu'autre partenaire important, nous devrions avoir le droit de vote. Issoumissa. Merci Wolfgang pour nous avoir rappelé l'histoire. Vous nous avez parlé de l'histoire d'Alac, mais pas de comité at large dans son ensemble, qui a pourtant un impact assez considérable sur l'ICANN 1.0 et 2.0. Nous avons entendu les commentaires sur l'histoire et vous l'avez exclu de manière intentionnelle, me semble-t-il. Si cela est le cas, je crois qu'il faudrait expliquer les raisons de cette approche, sinon... vous donnez l'impression que vous avez laissé tomber cette partie de manière accidentelle. Wolfgang a également parlé de liaison, de consensus. Parvenir au consensus est mieux que finalement que de donner le droit de vote à un membre de la LAC. Mais si, le consensus c'est important, mais c'est un consensus entre ceux qui ont le droit de vote au final. Et là, il y a une petite différence. Et cela a également à voir avec les difficultés liées à la constitution administrative, etc. Certaines personnes, si nous n'avons pas de droit de vote, les gens vont nous dire « Mais pourquoi participer ?» On écoute notre point de vue, mais c'est un point de vue ad hoc. Et pour conclure, étant membre de l'at-large intérimaire, nous avons énormément travaillé pour la politique. Et cela est un défi majeur que nous avons dû relever. Oui, nous avons apporté des commentaires, mais on nous a dit non, mais vous n'êtes pas officiellement légitime, etc. Donc finalement, notre voix n'est pas si pertinente que ça, étant donné que nous n'avons pas le droit de vote. Il faut vraiment prouver les choses. On est souvent critiqué si on parle de la constitution institutionnelle, etc. Au cours de la période intérimaire, cela s'est produit souvent. Et là, je pense à l'avenir de l'ALAC quand je dis cela. Avant de vous laisser répondre à tous ces commentaires, peut-être un dernier orateur et ensuite j'aimerais que nous fassions une espèce de pause. Malheureusement, nous avons dépassé le temps qui nous était alloué pour la discussion sur ce sujet. Mais dans l'ordre du jour, nous avions inclus beaucoup de choses sur les commentaires en ligne. Moi, là, c'est ce que j'amène sur la table maintenant. Le rapport sur les activités des RALO, des groupes de travail, questions et commentaires des représentants régionaux. Peut-être, non, nous pourrions continuer la discussion que nous avions maintenant et les commentaires, nous les mettrons en ligne, si vous en êtes d'accord. Un commentaire et deux questions rapides. Commentaire d'abord, certains mécanismes, il y a une question de responsabilité, de transparence et pas uniquement de statut et de représentation en ce qui concerne les membres du Conseil qui ont le droit de vote. La voix peut être, l'opinion peut être oubliée, mais le vote, non. Je pense que moi qui travaille avec la société civile, que sans ça, ça ne marchera pas. Ensuite, question. Y a-t-il donc des comparaisons avec NCUC qui a le droit de vote? Et avez-vous réalisé une évaluation de comparer NCUC avec la deuxième question? Quel a été le processus de ce rapport? Est-ce que quelqu'un l'a examiné avant que vous nous le présentiez ce matin?
No, next is in.
En fait, maintenant nous allons d'abord avoir la réponse et ensuite nous prendrons la suite des questions. Donc, Richard Nix pour répondre à ce premier groupe de questions et de commentaires et ensuite nous poursuivrons. Merci, Madame la Présidente. Une fois de plus, je reconnais le fait. N'oublions pas l'atelier de demain après-midi. Bon, je vais essayer de couvrir. Par exemple, d'aborder le contexte. Je suis désolé si le contexte n'apparaît pas. Et pourtant, nous avons réalisé un grand nombre de recherches sur ce sujet et nous avons essayé de prendre en compte si cela était pertinent pour l'avenir concernant les recommandations que nous allions faire pour l'avenir. Bon, peut-être faudra-t-il améliorer cela, car nous sommes penchés sur l'histoire de cela et deux des quatre membres de notre équipe ont était en lien direct avec l'ICANN, Alec Wilson et Alan Jackson, qui ont travaillé avec l'ICANN pendant des années. En ce qui concerne le fait de parvenir à un consensus, je comprends vos points de vue sur le fait qu'on ne peut pas ignorer un droit de vote. Sur 14, 15 ou 16 voix, une... Votre voix, pour influencer la politique au Conseil, il faudra quand même parvenir à un consensus et que vous expliquiez, etc., et que vous parliez beaucoup. Donc, le Conseil de l'ICANN travaille, à mon avis, fonctionne de manière un peu différente de ce qui a été décrit ici. C'est une organisation se base sur le consensus. Ce n'est pas comme le conseil municipal, 5 contre 6, etc. Non, ce n'est pas l'objectif du conseil de l'ICANN et du fonctionnement de l'ICANN en général. L'ICANN a pour but de parvenir à un accord autour de la table du conseil. Et quand nous lisons les procès-verbaux de conseil, nous voyons qu'il y a quasiment toujours 14 voix pour et rien contre avec certains détails, ça et là. Et je crois qu'il y a une stratégie. C'est pour qu'il y ait engagement autour de la stratégie, il faut l'unanimité autour de la table du Conseil. En ce qui concerne également la révision, l'examen de notre rapport, nous avons suivi, lors de la préparation de notre travail, Nous avons réalisé un examen des pairs, mais nous avions surtout besoin d'indépendance. L'objectif cette semaine, justement, est d'avoir les commentaires sur notre rapport. Mais jusqu'à présent, nous avons été encouragés à travailler de manière indépendante et éviter d'être influencés ou d'obtenir des informations biaisées par telle ou telle partie. Merci, Madame la Présidente. Maintenant, donc, Aneta Vanda Chevas, Carlos, et s'il vous plaît, Sébastien, prenez des notes. Sébastien a été ajouté, et ensuite, je clôt la liste. Donc, s'il vous plaît, prenez des notes pour pouvoir répondre à la fin.
All right. Well, many things have been...
Beaucoup de choses ont déjà été dites et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par mes collègues à Nat. Je suis surprise par votre réponse qui consiste à dire oui, mais on reprend l'histoire et on essaye de voir à quel point c'était approprié. Puis on a décidé que ça ne l'était pas tellement finalement et que l'histoire commence en 2003. C'est absolument central, c'est tout à fait essentiel. Et ce qui m'étonne, c'est qu'en raison de cette histoire, l'essentiel, c'est qu'il y avait déjà une structure pour les utilisateurs d'Internet. Elle était forte, elle représentait la moitié du conseil, elle était c'était un cadre général complet. Et ce qui a été dit à cet égard, c'est qu'on peut avoir des réactions d'autres gens. Et il semble que vous ne soyez pas... n'ai pas été d'accord avec d'autres gens qui pouvaient avoir leur propre approche. C'est quelque chose que je trouve irritant. L'autre chose, c'est que si on regarde cette revue, sa structure, il y a un certain nombre de choses qui sont utiles. Il y a des évolutions qui peuvent être très utiles, la structure pour les emails et autres. Et il n'y a pas de cohérence si l'on regarde ce qui sont véritablement les difficultés auxquelles la charge est confrontée. Quelles sont les difficultés qu'il faut répondre, qu'il faut résoudre? Qui sont les utilisateurs? Nous avons une longue discussion sur qui peut être membre d'un ALS. Et c'est quelque chose qui est des discussions très difficiles. Sur ce que doit devenir cette réglementation, parce que nous avons des structures différentes dans chacune des régions, sur la façon dont nous pouvons rester indépendants des influences gouvernementales et des entreprises. Et c'est véritablement un problème difficile. Comment est-ce qu'on traite du problème? Et comment est-ce qu'on est efficace en même temps dans les pays où il y a des organisations où c'est semi-gouvernemental, c'est pas un problème parce que ce sont des gens tout à fait ouverts, ils font un bon travail, c'est juste une difficulté. Maintenant, d'essayer de voir l'ensemble de ces difficultés est quelque chose qui aurait été utile. Et pour être tout à fait franc sur notre situation, eh bien oui, il y a ces structures at large, mais ça ne fonctionne pas sous la forme prévue. Avec une période de commentaires, retour vers votre propre organisation, vous demandez à tout le monde, vous avez cet apport général, puis vous revenez vers ICANN. Et ça ne marche pas comme ça dans ces différentes organisations, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est faux, et donc je pense que la revue d'ALAC devrait être tout à fait juste dans ce sens, pas de façon négative, mais en disant sincèrement, c'est difficile. Alors, ce n'est pas seulement un problème de langue, c'est également un problème d'autorité budgétaire. Je pense que ce serait extrêmement utile s'il y avait une autorité budgétaire avec quelques mots là-dessus. C'est extrêmement difficile à interpréter ce qui est dit en matière budgétaire ici. Et je suis heureux de voir qu'il y ait autant de monde ici. Nous avions une personne il y a 2 ans, c'était Denise. Maintenant, il y a 5 personnes qui travaillent pour nous. pratiquement à plein temps. Et qui revoit l'ensemble de nos travaux, mais il faut organiser la documentation au niveau régional, peut-être, en disant, voilà, c'est de ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on veut faire, il faut qu'on se réunisse là-dessus. Donc, ça ne marche pas. On a eu le même problème hier, lors de la réunion du RALO. Et ce sont des individus, ils ne peuvent pas tous venir, ils ne peuvent pas être élus pour venir à la réunion du conseil de RALO. Et ce sont des membres individuels, donc il a fallu s'organiser pour dire que ces ALS, par chance, par hasard, n'avaient pas de représentants qui pouvaient venir. Mais ils ont offert le siège à leurs membres du conseil pour qu'ils en aient la possibilité. Il a fallu leur offrir un siège au conseil pour qu'ils puissent venir. Donc, les gens sont des volontaires, sont des experts, sont des gens qui sont travaillent à plein temps là-dessus. Et comment est-ce que on va pouvoir être efficace au sein de la structure? Et je crois véritablement qu'il faut regarder cela de façon très détaillée, que c'est quelque chose qui devrait être utile. J'ai quelques éléments. Tout d'abord, je suis d'accord sur le fait que au niveau régional, nous ne sommes pas bien représentés, mais je voudrais qu'ALAC commence des discussions au niveau régional, parce que l'Asie est trop grande. Il faudra donc un CIMO sous-régional. Et par conséquent, ce serait très important de définir plus précisément les régions et pas avoir simplement des représentants de l'Asie. Parce que qui va définir quelle région d'Asie est concernée, doit venir? Donc, vraiment, je crois qu'il faut qu'on se répartisse mieux, non seulement, mais également ajouter un certain nombre d'éléments ou dire, par exemple, le groupe des pays arabes, une meilleure répartition, une meilleure division de ce très grand secteur, parce que le Pacifique et l'Asie, Japon, Malaisie, etc., Inde, Pakistan, tout ça, tous ces pays en ce temps. Enfin, c'est pas une culture, c'est pas... ça ne forme pas une Asie monobloc. L'autre, et ça représente véritablement un défi au niveau du Conseil, il y aurait été 3 ans, il y a 2 personnes qui représentaient l'ALAC. Et c'est difficile de définir comment répartir les choses. Parce que le fait d'être agent de liaison, c'est pas comme si on est ISOC ou W3 ou autre chose. Ils n'ont pas d'éléments spécifiques qu'ils représentent. Donc, c'est quelque chose qui... Alors, ils viennent sur certaines techniques, mais au niveau de la liaison à l'AC, c'est comme le GSC. Mais le GSE a une meilleure position parce que nous sommes mis d'accord dans le passé que lorsqu'il y a des accords, nous prenons en compte ces éléments. Donc, il y a une vraie différence. Et quand on parle d'avoir un certain nombre de personnes pour représenter les utilisateurs, et tout particulièrement maintenant, quand on commence à mettre en place une véritable structure, on ne peut pas atteindre tout le monde, mais tous ceux qui le souhaitent peuvent être représentés, et nous avons besoin d'un certain nombre de positions au sein duquel nos opinions puissent être prises en compte et reconnues dans la décision finale. Mais d'autre part, une fois qu'on est membre à vote délibératif, on n'est pas indépendant. en tant que membre votant, on ne peut pas prendre en compte le seul point de vue de la LAC. C'est donc un défi à relever. Je ne sais pas si la suggestion d'Izou d'avoir un membre à voix délibérative pour représenter certains types de pensées que nous avons ici et que l'autre soit là pour l'influencer. Ou bien est-ce que nous devrions avoir une sorte d'accord au sein du Conseil disant qu'une fois que lorsqu'il y a un fort désaccord, on ne peut pas voter dans cette direction. Donc, on a besoin d'avoir, qu'on puisse exercer un certain pouvoir là-dessus. Je vais m'arrêter là, mais j'aurais beaucoup d'autres choses à dire. Merci. On pourra revenir ultérieurement sur des éléments précis. Bien, avant de passer le micro à mon voisin, nous sommes arrivés et on va donner encore 15 minutes. Et si vous voulez, on va pas faire la pause. Et donc, est-ce qu'on est d'accord de continuer jusqu'en 11h15? Bon, vous avez la parole. Une question simple. C'est les deux questions simples auxquelles il fallait répondre. Savoir si la LAC doit continuer a toujours un rôle à jouer dans la structure de l'ICANN. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles circonstances vous auriez répondu non? Ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut poursuivre parce que c'est un système ascendant et tout. Est-ce que ce système continue d'exister? Alors, dans quelles circonstances vous auriez répondu non à votre question? On attend tous cette réponse. Even. À partir de lundi, quand on a vu que ce rapport, la région nord-américaine va s'assurer que dans notre RALO, tout le monde a eu la possibilité de le lire et de le commenter. Et sans entrer dans le détail, parce que nous avons très peu de temps, je peux simplement dire que l'immense majorité des commentaires qui n'étaient pas sollicités par nous étaient que le rapport détaillé, on dit qu'ils m'ont entendu, mais qu'il n'y a aucune réponse sur le fait qu'ils ont véritablement écouté. Mais donc, les gens ont dit ce qu'étaient les générales préoccupations par rapport à la participation au Conseil, mais je voudrais me concentrer sur un élément qu'on n'a pas beaucoup traité, qui est le rôle du comité de nommage. Et un des éléments sur la migration de la LAC intérimaire à la LAC finale, c'est de passer d'avoir des gens entièrement nommés à un système où l'essentiel des membres sont élus, responsables et représentatifs. Et ce que l'on voit dans la recommandation, c'est qu'on maintient non seulement le statu quo, mais qu'on fait plutôt un pas en arrière en ajoutant encore deux personnes à la LAC qui ne sont pas responsables, élus ou représentatifs. Et par conséquent, nous voyons cela, où il y a un certain nombre de personnes, au moins dans nos RALO, qui ont vu cela comme un recul du point de vue de la participation de la base, un recul par rapport à une bonne relation solide entre la LAC et le comité de nomination, parce que c'est un peu incestueux, ça va dans les deux sens. La LAC nomme au comité de nomination et le comité de nomination nomme à la LAC. Donc, je ne crois pas que ça existe dans d'autres organismes. Et véritablement, on ne note pas vers le GSC, NATCOM ne note pas au GSC, et ils ont dit au contraire qu'ils devraient sortir de la LAC directement. Et je me demande pourquoi vous pensez qu'il est tout à fait nécessaire d'avoir dans une organisation de basiste qui est supposée s'adresser au public en général, d'avoir des gens qui ne sont ni représentatifs ni élus. Carlos? Je voudrais tout d'abord dire que j'ai trouvé un certain nombre de choses intéressantes dans ce rapport et d'autres qui me paraissaient sans intérêt. Mais ça fait partie du jeu. Tout le monde, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ce qui me paraît important pour le comité, c'est que l'on comprenne ce que je crois, et vous me corrigerez si je me trompe, que la fonction du rapport était de voir si on faisait véritablement ce que la LAC était supposée faire. Et si ce n'était pas le cas, ou s'il y avait d'autres sujets sur lesquels la LAC pourrait s'améliorer. Mais j'ai vu dans le rapport qu'on s'éloignait d'une position qui ne m'a pas beaucoup plu, en fait. Il y a un certain nombre de commentaires qui sont faits disant que la LAC devrait être éliminée, qu'on devrait faire partie de l'ESOC, que c'est quelque chose qui devrait se réunir à la NSUC. Et véritablement, c'est ne pas comprendre la LAC. D'autre part, il me semble que quelqu'un peut le dire, tout le monde a le droit de le faire, mais de là à faire figurer dans le rapport noir sur blanc, ça commence mal. Parce qu'on est en train de poser une sorte de concept préalable par lequel ce rapport ne devrait pas commencer. D'autre part, ce concept préalable, cette motion préalable, amène à affirmer qu'on dit que la LAC ne devrait pas avoir de vote, que les régions doivent rester telles quelles, mais ensuite on dit qu'il faut les moderniser. Donc il me semble qu'on ne donne pas à la LAC l'importance qu'elle a véritablement. Aujourd'hui, la LAC me paraît correspondre à l'une des idées par lesquelles commence ce rapport. C'est la conscience de la canne. Et c'est véritablement, sinon, en fait, c'est un sens. S'il n'y a pas d'ALAC, il n'y a pas d'ACAN. Merci. Je suis tout à fait consciente que je vais vous demander de prolonger encore. Donc, je vous propose qu'on continue jusqu'à 11h30, si cela convient aux consultants. Et donc, je vous remercie. Sébastien.
Je n'ai pas lu les documents avant la réunion. Je vous prie de m'en excuser. Il y avait quelques activités à mener avant votre arrivée. Mais je crois que la discussion qui a lieu là est absolument essentielle et je pense qu'elle est aussi importante qu'elle ait lieu entre les membres actuels de la LAC. Je pense que les arguments de vote ou de non-vote, les arguments de il faudrait qu'on ait 3-5 élus au board, etc., sont des arguments qui, bien évidemment, peuvent s'exprimer et s'entendre, mais qui nécessitent une discussion. Je prendrai qu'un exemple aujourd'hui. Combien a-t-on de candidats pour être notre liaison au board? Si au moins on en avait un par région, on pourrait dire ce serait super, on pourrait même les mettre tous les cinq, mais on n'en a même pas un par région. Et quant à la question de il y a des... Nous élisons, ALAC élit des représentants au Nominating Committee qui élit des représentants à la LAC. C'est pas seulement le cas de la LAC, c'est le cas des Supporting Organizations aussi. les constituants du GNSO nomment des représentants dans le nominating committee, et le nominating committee nomme trois personnes dans le GNSO. Je crois que ce qui me dérange fondamentalement dans toutes ces études, et ce n'est pas celle-là plus qu'une autre, et ce n'est pas ce groupe de qui a travaillé dessus plutôt qu'un autre, c'est que pour ceux qui ont vécu le travail sur ICANN 2.0, ça a été difficile, il y a eu des choses, c'était long, compliqué, mais au moins on essayait de bâtir une image globale. Aujourd'hui, on est dans la situation où nous allons, à partir d'une image globale, prendre des morceaux de cette image et essayer de la changer. Et on ne sait absolument pas ce qui va se passer dans les autres parties de l'image. Et malheureusement, j'ai le sentiment que nous allons arriver à une image complètement floue. Là, nous sommes en train d'aborder... en même temps que la revue d'ALAC, il faudrait qu'on parle de la revue du board, de la revue du nominating committee, de la revue du GNSO, et je me permettrais juste d'ajouter que moi je trouverais bien que des représentants at large soient aussi au CCNSO de façon beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des questions qui sont posées dans chaque pays, mais il y a aussi des questions plus globales, et donc donc on pourrait et in fine la question c'est comment est-ce que tout ça va vivre ensemble. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, on a eu le GNSO, on a l'ALAC, on a le nominating committee, on va avoir le board, comment est-ce qu'on peut se faire une big picture, et je ne suis pas sûr que nous arrivions jamais comme ça un ICANN 3.0, surtout dans la perspective de la fin du Joint Project Agreement en septembre 2009. Merci beaucoup.
José?
Si bien estoy de acuerdo.
Je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit. Je ne vais donc pas reprendre ces différents points. Mais il y a un point qui n'a pas été abordé et que j'avais commenté déjà. Il est difficile de s'attendre à ce que les membres de l'ALAC, je parle de la fonction d'ALAC, mais on n'a pas parlé des membres d'ALAC. Et il est difficile d'attendre que les membres de l'ALAC travaillent bien quand on nous traite comme citoyens de troisième catégorie de l'ICANN. On ne nous paye pas une connexion Internet ici et on n'a pas de possibilité. À Delhi, ça nous a coûté $50 par jour et il fallait en plus $30 par jour de connexion Internet. De même, l'hôtel où on nous a mis à Los Angeles était totalement inacceptable. Et que cela ne soit pas mal interprété, je ne dis pas qu'on doit voyager en première classe, qu'on a besoin d'aller dans des hôtels 5 étoiles. Mais on ne peut pas prétendre que les membres d'ICANN offrent leur travail toute l'année et que pendant une semaine, trois fois par an, ils se réunissent et qu'on ne paye même pas la connexion Internet. C'est tout.
Now, Carlton Mann.
Bon, je vois maintenant que vous êtes tout à fait de bonne humeur maintenant et je pense que vous voulez répondre. Bon, je dois dire que ce qui, je crois, est en train de se passer, c'est que le vrai problème, c'est que l'ICANN est une entreprise américaine qui essaye de devenir mondiale. Donc, elle essaye de voir comment ça se fait, comment on fait ça. Donc, elle essaye un certain nombre de choses. Elle dit, je suis une entreprise américaine avec des bureaux, d'utilisateurs finaux. Comme l'ensemble des entreprises américaines, ils ne veulent pas que les gens d'en bas se mêlent de leurs affaires. Mais il faut en même temps qu'elle trouve un moyen de passer à l'étape suivante. Donc, ils essayent de trouver les personnes qui comptent. Donc, ils regardent, se tournent vers les gens dont ils pensent qu'ils comptent. Et si on n'avait pas la LAC et les RALO, eh bien, vous n'auriez qu'à vous connecter aux utilisateurs, comme on les appelle. S'il y a différentes façons de le faire, ils peuvent le tolérer un certain temps, mais c'est tout. On tolère, pas plus. Quand on entend les questions de savoir si les RALO sont pertinents, on passe à la question suivante, qui est la question de Chimasses. Alors, si les RALO ne sont pas pertinentes et qu'on doit être plus proche des utilisateurs, alors comment est-ce qu'on commence à poser cette question si on doit se connecter aux utilisateurs? Donc, j'écoute. C'est très intéressant de voir les manœuvres politiques. J'étudie la politique. Mais c'est véritable. Quel est le problème? C'est Kikan est une entreprise américaine avec une vision très américaine du monde qui essaye de devenir, non, pas devenir, pas apparaître global, mondial. Et toutes ces manœuvres servent de palliatifs. C'est, on nous envoie des biscuits un petit peu. Et quand on voit ça, vous fâchez pas, vous énervez pas trop. C'est pas à vous de vous énerver. C'est véritablement essayer de voir comment on arrive au fait. Et c'est ça qu'on est censé faire. Magnifique plaidoyer pour répondre à toutes ces questions. Est-ce que la parole est de nouveau à vous, Richard? Merci, Madame la Présidente. Si je peux tout simplement reprendre les thèmes principaux qui ont été mentionnés, et pardonnez-moi si j'ai manqué un certain nombre de détails, Annette a fait un excellent point à poser des questions très intéressantes. Nous avons en fait invité nous avons fait beaucoup de liens pour inviter aux propositions, et c'est dommage que personne n'ait pas dit qu'il pouvait revenir vers l'ancien système. On a demandé le plus grand apport que possible. Il y a eu des publicités sur le site Internet. On a envoyé des invitations. Il y avait des liens. Et nous ne pouvons faire qu'avec l'information qu'on a, après avoir essayé d'en recevoir davantage. Je n'essaye pas de dire cela pour me défendre, mais nous avons essayé de demander des aides. Puis il y a eu un jugement sur qu'est-ce qui allait se passer à partir de la 1.0. Et puis il y a eu des questions très utiles, très intéressantes. Et je pense que nous avons eu 55 ou 56 questions qui nous avaient déjà été présentées dans le mandat. Et à l'évidence, il y en a d'autres qui arriveraient. Et j'aimerais répondre. Et j'aimerais bien avoir la possibilité de répondre à ces questions nouvelles. Pour ce qui est de la déclaration qui était qu'on n'écoutait mais qu'on n'entendait pas, je dirais ce n'est pas vrai. Nous avons écouté, nous avons considéré, mais non, pas simplement entendu à l'AC, on a entendu d'autres parties d'ICANN, on a entendu d'autres gens qui ne sont plus membres d'ICANN, et le point de vue que nous représentons ou auquel nous sommes arrivés sont le résultat d'un apport combiné, de soumission combinée pour ce rapport qui, comme je l'ai dit, est un rapport au Conseil. Je me pose la question qui est qu'en suggestion que les membres de DONCOM soient ajoutés à la LAC, ce soit un recul. La LAC, vous nommez 5 membres au DONCOM. Et je croyais qu'ALAC avait une capacité d'influencer suffisamment les nominations par NONCOM en ayant ces 5 membres, et je ne vois pas cela comme un recul, au contraire. Et en fait, un certain nombre des commentaires qui ont été faits, c'est que les gens qui ont été nommés ou proposés par NONCOM ont été extrêmement utiles au sein de l'ALAC. Et cela devrait être de même dans l'avenir. D'autre part, je réfute totalement la proposition que nous avons sous-estimé ou négligé l'importance de la LAC. Toutes nos recommandations, si vous lisez le rapport, visent à permettre à la LAC que nous considérons comme étant vitale, comme le canal permettant de passer de l'usage vers de et vers l'utilisateur Internet individuel, et que nous voulons qu'il ait plus d'influence, qu'il soit mieux entendu. Et également, nous avons recommandé que l'ICANN apporte des informations plus utiles à la communauté at large. Et véritablement, c'est un appui à ce qu'essaye de faire ALAC et de ce qu'il pourra faire dans l'avenir. Pour ce qui est du tableau général, je ne sais plus si c'est Carlos qui l'a mentionné, je suis tout à fait d'accord. Notre examen était limité à celui de l'ALAC. Ce n'était pas un examen d'autres parties d'ICANN. Et nous souhaiterions, de façon non officielle, faire une recommandation qu'un une étape quelconque dans le processus de l'examen indépendant, on puisse également examiner l'ensemble de l'ICANN et pas simplement de ses composantes. Je serais tout à fait favorable à ce point. Pour le reste, je crois qu'il y a véritablement un risque de perdre cette grande perspective. Et finalement, il y a aussi la question de savoir dans quelles circonstances nous aurions répondu non. Nous avons passé 4 mois à peu près à réfléchir à cette question. Et lorsque nous avons reçu l'apport d'autres parties de l'ICANN, vous aurez vu dans les commentaires qui ont été faits qu'il y a beaucoup de gens qui suggéraient que l'ALAC n'avait pas de rôle. Certains ont questionné pourquoi j'avais fait figurer ces commentaires dans le rapport. Eh bien, la réponse, c'est qu'il est très important également pour ALAC de savoir comment d'autres perçoivent l'ALAC, qu'il est pour l'ICANN de savoir comment l'ALAC perçoit l'ICANN. Donc, nous suggérions, et c'est un point de vue qui est peut-être personnel et peut-être pas de Western Consulting dans son ensemble, qu'il devrait y avoir beaucoup d'observations très intéressées sur la façon dont ALAC réagit à notre examen. Nous souhaitons encourager des points de vue élaborés à présenter au groupe d'examen du board. Et si vous pensez que ce n'est pas d'accord ou que c'est simplement pas possible, nous voulons simplement vous encourager à envoyer ce genre de choses, mais de les fonder sur des faits, sur des preuves et pas simplement des opinions. Parce que tout ce qui nous a été dit par l'ICANN lorsqu'on a fait cet examen a été fourni sur des éléments, sur des preuves pour des recommandations. Pour que l'ALAC soit efficace, dans la position où nous en avons besoin, nous pensons qu'il devrait et pourrait avoir une norme de haute qualité du point de vue de l'ALAC. Merci, Madame la Présidente.
Because we've advertised.
Merci. Nous avons une augmentation de notre auditoire et je voudrais véritablement qu'on fasse un résumé des différents points qui ont été élaborés parce que vous avez eu des échos de choses assez semblables. Donc, si vous voulez bien mentionner aux récents participants dans la salle qu'il y a une traduction simultanée. Et si les orateurs francophones ou hispanophones s'expriment, ils le font dans leur propre langue. Et vous aurez besoin de ces casques. Le français sur le 1, l'anglais sur le 2 et l'espagnol sur le 3.
Je voudrais également vous informer que nous avons fait un tour de table dans cette réunion à l'ALAC pour poser des questions sur le sentiment général, pour voir un petit peu quelles sont les questions qui seront posées dans la consultation publique. Et nous essayons de voir maintenant comment aborder ces consultations. Nous sommes dans cette salle. Je crois que c'est la plus importante de Paris maintenant. C'est celle où on devrait être. Et peut-être nous allons travailler par étapes, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont les questions que vous vous posez qui ont été abordés en session 1 et que l'on pourrait peut-être discuter en envisageant l'avenir. Et dans cette partie de du processus qu'est la session 2, avec la participation du public, nous pouvons reprendre les questions de la session 1 et puis essayer d'aller de l'avant. Donc, ça n'est pas pour mélanger de sessions publiques, mais pour essayer de les relier. Robert, j'ai juste une question pour revenir sur la question du conseil d'administration, parce que je crois qu'il y a un membre de la LAC au conseil. Je croyais que c'était Victorio, non? Et Wendy fait la liaison entre le conseil et ALAC. Alors, j'aimerais simplement savoir qui au conseil s'occupe de cette étude, de ce réexamen ALAC. Alors, la présidente du comité d'études de ALAC va prendre la parole. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre de la manière dont vous le souhaitez, mais en fait, il n'y a pas de représentant ALAC en tant que tel au groupe de travail. Victoria, qui est actuellement vice-présidente du groupe, est là un petit peu en tant que membre du conseil. Mais dans le groupe, il y a Thomas qui s'y intéresse beaucoup, Carole, Jean-Jacques. Mais il n'y a pas de représentant ALAC qui ait été nommé au groupe en tant que tel. C'était juste pour vous préciser les choses. Évidemment, vous avez un éventail assez large de représentants. Puisque vous nous avez rejoints ici, peut-être pourriez-vous rester. Ça ne sera certainement pas la dernière question à vous poser. S'il y a d'autres personnes qui sont membres du conseil, du comité de gouvernance de l'ICANN, peut-être que vous pourriez venir à cette table. On pourra vous poser davantage de questions. Ça vous donne une petite pause, Richard, pour récupérer vos notes et attaquer. Merci, Madame la Présidente. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je crois que la question concerne certaines de recommandations, le rôle de liaison avec le Conseil, le rôle des régions et le rôle de la personne à nommer à ALAC venant de NOMCOM. Et puis, participation, observation ou vote. Vous avez certainement lu le rapport en détail et j'espère que ce que nous présentons est clair. Je sais que nous n'avons pas eu beaucoup de temps de lecture et de discussion jusqu'à présent, mais j'espère que vous aurez le temps de lire ça pour prendre le rapport dans son ensemble et pas simplement les 8 pages de synthèse au début. Alors, je ne veux pas trop répéter ce que je viens de dire, mais nous pensons que le rôle de personne de liaison permet d'influencer, de conseiller, de contribuer aux prises de décision ou au processus du conseil sans avoir pour autant les contraintes d'un membre du conseil. Parce que un membre du conseil doit agir dans l'intérêt d'ICANN dans son ensemble, alors qu'un membre d'ALAC agit dans l'intérêt d'ALAC. Et il peut y avoir conflit d'intérêts entre les deux. Donc, ne pas être liaison simplement est suffisant. Maintenant, les régions, la structure régionale n'est pas tout à fait satisfaisante actuellement. Nous envisagerions une solution temporaire, pas à long terme, avec la nomination de 2 personnes d'Asie au comité ALAC et l'un devrait peut-être être du monde arabe, comme il a été suggéré, puisqu'en fait, la région Asie-Pacifique, elle va en gros d'Istanbul au détroit de Bering. Ça ne fait que la moitié de la planète et 60% de sa population. Alors, comment est-ce qu'on répartit cela? Nous n'y avons pas véritablement réfléchi, mais nous pensons simplement qu'il y a d'énormes
divergence dans la représentation qu'il faudrait corriger. Madame la Présidente, y a-t-il d'autres points que vous souhaitez que je soulève maintenant? Ou est-ce que... La Présidente, je ne voudrais pas que vous vous répétiez trop, mais je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont particulièrement intéressées par la question des membres du Conseil. Et puis, je pense qu'il y a inadéquation ou il y a peut-être une différence dans la compréhension de ce qu'est la gouvernance ou l'administration pour des cultures et des langues différentes. Parce que quand on parle de structuration de GNSO où la politique est déterminée, quand on parle du Conseil qui a tendance à donner des orientations, quelle est l'importance d'avoir le droit de vote là-dedans? C'est cela que vous pourriez peut-être réexpliquer pour nos différents auditoires. Je crois que ça, c'est une question importante. J'aimerais également que vous reveniez à la question de non-com, parce qu'il me semble que nous avons des différences régionales sur notre perception et valorisation de non-com. Donc, si on utilise des représentants de NOMCOM pour représenter les gens d'Asie, ce n'est peut-être pas quelque chose qu'il faudra faire, qui sera facile à faire. Il faudra peut-être le justifier. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je vais parler des droits de vote et des membres du Conseil avec droit de vote. Notre compréhension du Conseil d'ICANN, c'est un Conseil qui fonctionne par consensus. Parce que l'ensemble de ICANN, c'est une organisation où les prises de décision se font en partant de la base et par consensus, ce qui est tout à fait différent de bien d'autres conseils où c'est la majorité qui l'emporte. Et la commission de nomination NOMCOM est un peu le gardien de l'équité dans la représentation dans une organisation avec beaucoup de parties prenantes différentes. Et le Conseil élabore des stratégies, donne des directions, supervise ce qui se passe. Mais c'est différent de ce que font les branches exécutives d'ICANN qui, elles, travaillent vraiment sur des politiques précises et qui ont des objectifs bien plus concrets. Donc, nous pensons que ALAC influencera cette prise de décision en étant au Conseil, mais sans voter. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus utile. Parce que si vous êtes membre du Conseil, vous devez représenter l'ensemble de la communauté ICANN. Si vous êtes membre de ALAC, vous représentez ALAC. Et nous pensons que ça, ça serait beaucoup plus constructif plutôt que d'avoir un ou deux membres du Conseil avec droit de vote. En n'étant pas officiellement membre du Conseil, mais responsable de la liaison, ils ne rendront des comptes qu'à ALAC et pas à l'ensemble de la communauté ICANN. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, ils dilueraient leur responsabilité vis-à-vis d'ALAC. Donc, au Conseil, sans droit de vote, ils représenteraient vraiment ALAC, ce qui est, au fond, ce pourquoi ils devraient être là. Ensuite, sur la question des régions. Notre recommandation, comme vous le savez, c'est d'augmenter la taille d'ALAC en ayant deux personnes de plus, c'est-à-dire que la commission de nomination devrait nommer deux personnes de plus à ALAC. Nous pensons que c'est la solution la plus pratique pour rééquilibrer les choses actuellement. Nous savons que la structure que vous avez actuellement a pris longtemps à s'établir et nous n'aimerions pas la démolir, la diviser. Nous n'aimerions pas, par exemple, subdiviser les RALO actuellement. Mais nous pensons qu'il est beaucoup plus important à l'heure actuelle que ALAC dans son ensemble et les RALO puisse se concentrer sur les questions de fond, apporter des contributions de qualité, contribuer au développement de politiques, plutôt que d'essayer d'organiser d'autres structures que celles qui existent actuellement. Donc, je pense que ALAC fournit un contexte, un cadre, et être aussi efficace que possible pour contribuer au développement de politiques de l'ICANN. Et on pourrait le faire en augmentant les ressources du personnel, en ayant d'autres manières de communiquer avec la communauté des utilisateurs, des internautes, et ce, en ayant deux personnes nommées pour représenter la région Asie et qui, donc, permettraient à cette région et à ALAC d'être plus efficaces dans leur contribution au Conseil. Merci beaucoup. Je crois que nous devons insister sur ce point. Nous ne parlons pas d'avoir plus de représentants des pays d'Asie et du Pacifique. Nous parlons du Moyen-Orient et de régions qui ne sont pas encore représentées. Et nous donnerions des critères bien précis à la commission de nomination. Réponse, oui, absolument, Madame la Présidente. Ce n'est pas simplement sur base de données démographiques et du nombre d'internautes actuels, mais aussi des prévisions d'utilisation d'Internet. Par exemple, la Chine a plus d'internautes, a plus d'utilisation d'Internet que les États-Unis, et en Asie, il y en a beaucoup plus qu'en Amérique du Nord. Et ce qu'il y a en plus, c'est que si vous vous projetez dans l'avenir, cette disparité va encore augmenter. Parce que dans un certain nombre de pays européens ou nord-américains, la pénétration a atteint pratiquement ses limites. Et par contre, en Asie, l'utilisation d'Internet est probablement à 10 ou 15% de pénétration et pourrait doubler, quadrupler, quintupler dans les années à venir ou dans les décennies à venir. Et nous pensons donc qu'il est indispensable, si ICANN doit être une organisation internationale, il faut absolument donc, il est indispensable que l'on tienne compte de cela et qu'on ne dise pas simplement la région Asie-Pacifique, mais une région prise au sens beaucoup plus large. La présidente. Il y a maintenant Azay et d'autres demandes de parole.
Moi, j'étais membre de NOMCOM. Et c'est la raison pour laquelle je me pose cette question. Je pose cette question. Un des principaux problèmes auxquels nous avons dû faire face au NOMCOM, en tout cas au cours des années auxquelles j'y ai participé, c'est-à-dire 2005 et 2006, et je crois comprendre que ce problème est encore en cours, c'est que nous n'avons pas encore assez de candidats, de bons candidats. Il n'y a pas assez de bons candidats qui se présentent. Si nous voulons pouvoir attirer des nouveaux membres, et si nous voulons dire au NOMCOM qu'ils nous obtiennent, par exemple, un représentant de l'Asie, un Indien, un Chinois ou également du Moyen-Orient. Avez-vous pensé à cela? Comment on va mettre en place cette politique? Comment on va réussir à avoir des bons candidats de ces régions ou de ces pays-là? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là?
Merci, Madame la Présidente. C'est une excellente question. Nous avons surtout étudié le principe de ce qu'il faudrait faire. Maintenant, pour ce qui est de comment avoir des candidats, des bons candidats, je dirais qu'on rentre plutôt dans ce que j'appellerais un cercle vertueux. Si on a l'impression qu'ALAC fournit des conseils très utiles à ICANN, est entendu, à voix au chapitre, est efficace, à ce moment-là, ça attirera des gens qui auront envie de participer à ALAC et à d'autres structures de ICANN. Et donc ça nous donnera des conseils de meilleure qualité et des gens de meilleure qualité. Mais je pense pas qu'on puisse séparer les deux. Et il y a une autre remarque, c'est que ICANN a l'obligation pratiquement d'offrir de meilleures communications et une meilleure promotion, une meilleure diffusion d'informations à la communauté générale des internautes. Même au cours des 4 ou 6 dernières semaines, la qualité, la quantité des informations fournies par ICANN à des personnes individuelles, à des internautes individuels, a beaucoup augmenté. Et nous pensons que c'est une tendance qu'il faut maintenir et nous espérons que cela stimulera les discussions, les activités et les contributions par des gens de la communauté qui, pensant qu'ils ont plus d'informations, des informations qu'ils comprennent en tant que personnes non spécialistes ou non techniques, ils auront plus envie de participer. Mais nous avons toujours des contraintes, c'est-à-dire que l'objectif général de ICANN est au fond limité.
Merci, Cheryl. Et je voulais faire des commentaires au groupe consultant indépendant. Merci pour leur rapport. C'est très bien, c'est très pertinent. C'est beau aussi d'avoir les remerciements dans différentes langues. On aurait souhaité avoir le rapport aussi dans nos langues pour pouvoir le lire et commenter en même temps que vous. Nous n'avons pas ce privilège, mais on constate qu'à la fin, nous sommes tout simplement les autres qui ne parlent pas l'anglais, sont simplement des consommateurs. Tout le document est traité. Nous sommes là juste pour nous informer des décisions, des documents prêts à titre d'information. Mais vous n'avez pas d'input venant de cette communauté qui ne parle pas l'anglais pour participer réellement aux travaux, aux commentaires des documents. Ça, c'est un premier commentaire. Le deuxième commentaire va sur la question sur board liaison. J'avais noté ça depuis. C'est bien d'avoir une voix. Moi, en tout cas, mon point de vue, c'est qu'on puisse avoir droit de vote. Parce que si nous devons avoir une influence, un impact à un groupe, à une décision, c'est parce qu'on a un droit de vote. Si on n'a pas le droit de vote, nos commentaires et nos conseils ne seront pas pris en compte obligatoirement parce qu'on n'a pas le droit de vote. Voilà les deux commentaires que j'avais sur cette question. Merci et je souhaite que prochainement, nous aurons nos documents dans nos langues en avance pour pouvoir participer au débat.
Patricia would like to respond. Patricia aimerait répondre à cela, puis ensuite je vous passerai la parole. J'aimerais soulever la question de langue. D'abord, pour dire que dès le départ, l'intention est d'avoir des traductions. Sur le site web concernant l'examen de HALAC, sur le site, nous avons donc mis un communiqué, si je peux l'appeler comme ça, nous avons mis un communiqué pour essayer, ou nous avons mis différents communiqués pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Nous l'avons fait après la dernière réunion, après la réunion d'avant, et nous disons bien que la traduction et les langues sont très importantes. Ce n'est pas que nous oublions ce point-là, ce n'est pas du tout le cas. Nous n'avons pas oublié, ce n'est pas que ça ne nous préoccupe pas. Si vous voyez ces communiqués, ou appelez-les comme vous voulez, on parle donc bien de traduction. Ce que je crois, nous espérions avoir la synthèse du rapport traduite pour cette session. Mais et la version finale sera traduite. Je voulais simplement vous dire que dès le départ, nous avons pris soin de cette question, nous avons souhaité avoir des traductions. Je crois que c'était même au cours de la réunion du mois de mai. Et nous voulions donc la synthèse traduite et ensuite Westlake nous donnera le rapport final traduit. Donc quand on aura la version finale, elle sera traduite. Alors, c'est peut-être pas ce que vous vouliez m'entendre dire juste ici, maintenant, mais Westlake a vraiment beaucoup travaillé pour produire ce document final. Ça a été
un calendrier extrêmement serré. Nous souhaitions avoir la synthèse traduite. Ce n'est pas que nous ayons oublié, c'est que nous n'avons pas pu. Nous avons été trop courts en délai. Merci. J'ai deux commentaires ici. Le premier, concernant la représentation au Conseil et les droits de vote. Je ne vois pas les autres organisations qui ont le droit de vote se précipiter pour le faire. Il y a une responsabilité, disons, fiduciaire de la part des membres du Conseil. Quelque part, ils sont les défenseurs, les gardiens de ICANN. Et une organisation beaucoup plus générale, at large, peut avoir des opinions beaucoup plus variées et différentes des autres sections. Et ça, ça fait partie du problème. Et puis, cette responsabilité de défense, de protection, si vous voulez, fait que les membres du Conseil doivent parler au nom du Conseil. Et je crois que l'argument est un petit peu biaisé. Le deuxième commentaire que je voudrais faire concernant la langue, alors je vais peut-être pas être très populaire, mais j'ai passé 35 ans de ma vie dans un milieu essentiellement français et je n'ai jamais pu participer à armes égales avec mes collègues des institutions francophones. Il y en avait 32 et puis il y avait une trentaine de francophones et deux anglophones. Et je dirais que même si ICANN essaye beaucoup, nous ne pouvons pas avoir une traduction instantanée des documents écrits. Et tous les commentaires que font les gens ne sont pas toujours traduits en simultané. Nous voulons que les meilleurs participent à l'écrit, à l'oral, et c'est vrai qu'il serait préférable d'avoir des anglophones. Écoutez, quand j'ai travaillé à Montréal pendant ces 35 ans, j'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas été aussi intégrée que je l'aurais été si j'avais parlé français couramment. Je crois que c'est un fait et j'aimerais que votre rapport fasse ce commentaire parce que c'est la réalité d'aujourd'hui, même si nous souhaitons qu'elle soit un peu différente. Dans ce genre de réunion avec interprétation simultanée, ça marche, ça marche. Les gens qui écoutent la traduction vont rire avec quelques secondes de décalage à la plaisanterie qui a été faite, mais ça marche sinon. Et je crois que c'est une réalité dont nous devons tenir compte et on va devoir en tenir compte à l'avenir. Anita? Je suis un petit peu perdue là, parce que nous avons une discussion sur le réexamen d'ALAC et puis maintenant, nous sommes repartis dans autre chose. Alors, vous, membre du Conseil, êtes arrivé, c'est très bien, c'est très gentil, mais où est-ce qu'on en est là? De quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'on a déjà discuté de beaucoup de choses au début. Il y a eu des tas de contributions sur ce réexamen en disant que l'histoire ne commence pas en 2003, mais au début d'ICANN. Quelle était la représentation des utilisateurs à l'époque? Quelle était la représentation à l'époque et aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les possibilités des régions? Comment est-ce qu'elles peuvent intervenir? Nous parlons de traduction maintenant. Bien sûr que c'est un problème fondamental, mais il est facile d'en parler. Et c'est pour ça qu'on en parle tout le temps, d'ailleurs. Ce qui me perturbe un petit peu ici, c'est que nous avons quand même un contenu relativement technique et que c'est parfois difficile de le traduire. Moi, par exemple, je parle allemand, et j'essaie d'expliquer en allemand à des collègues allemands de quoi il s'agit, et ça n'est pas simple du tout. Donc, c'est même pas une question de qualité de la traduction, c'est que le contenu est difficile. Et notre review, notre réexamen, montre que nous venons au problème structurel de la question d'indépendance de chaque organisation régionale. Est-ce que nous pouvons commencer à traduire? Est-ce que nous avons le droit ou pas? Comment fonctionnent les échanges? Est-ce que si nous faisons quelque chose, on a des ressources pour le faire, financières et en termes de personnel? Comment est-ce qu'on coordonne? Comment est-ce qu'on fait les choses? Il y a tellement de problèmes stupides ici qui freinent l'activité de tous ces volontaires, de ces experts, de tous ces gens intelligents qu'il est difficile de faire participer. Tout le monde ne veut pas travailler pour ICANN. C'est difficile. Et si vous avez ces participants qui viennent et vous leur proposez ou vous leur demandez de contribuer, ils se demandent si leur contribution a un impact. Et c'est ça la vraie question. Quel est l'impact de ce que font les gens, de ce qu'ils disent? Si vous écrivez quelque chose, il ne suffit pas que quelqu'un l'entende quelque part. Il faut que ça soit pris en compte et il faut que les gens en aient la preuve. Donc, il devrait y avoir une procédure en place, quelque chose. Et quand on parle de la structure at large, il faut dire qui sont les utilisateurs, quelles sont les influences des gouvernements, des entreprises. Bon, j'en ai déjà parlé, je me sens un petit peu mal à l'aise à me répéter, mais si nous avons un cadre clair, d'accord, et qu'on rouvre la discussion là-dessus, d'accord. J'aimerais que Karl en reparle. Anita, je suis sûre que tous ceux qui ont envie de répéter ou résumer ou commenter le feront. Je vois Wendy, Wolfgang, ensuite Dailing.
I'm speaking now as the secretary.
Je parle en tant que secrétaire du HALO nord-américain au nom d'un groupe en Amérique du Nord qui avait de vives préoccupations concernant les processus qui avaient été mis en place pour sélectionner les examinateurs indépendants. Donc là, je m'adresse à Patricia. Je ne veux pas que cela soit mal pris par les consultants. C'est important, ce sont des questions importantes. Si nous ne répondons pas à ces questions, eh bien, cela va jeter un certain soupçon sur le rapport. Donc, quand on accepte des propositions pour quelque chose, pour un concours, etc., et ensuite, on augmente le délai sans le dire publiquement, et on n'explique pas pourquoi le délai a été prolongé. On ne sait pas pourquoi l'appel d'offres a été réouvert, par exemple. Et moi, je travaille également pour le gouvernement territorial canadien. Si je le fais, on va directement au tribunal. Donc, pourquoi cela s'est produit? J'ai besoin de savoir pourquoi. Et toujours à cet égard, pour savoir combien d'offrants étaient conformes à l'appel d'offres de départ, est-ce qu'il y a une évaluation des offrants de départ? Qui a réalisé l'évaluation? Comment est-elle faite? Pourquoi certains offrants de départ n'ont pas été interviewés, par exemple? Voilà mes questions. Moi, j'essaie de voir si Denise ou quelqu'un d'autre était dans la salle, car en fait, le processus, c'est-à-dire le groupe de travail, n'a pas été choisi avant la sélection de Westlake. Donc ça a été mis à jour. Mais en fait, si on va à ALAC Review, le site de l'ICANN, eh bien là, il y a les différents communiqués et c'est là où on voit les différentes adoptions, approbations, etc. quelqu'un pourrait peut-être m'aider. Mais en tout cas, la sélection, le choix a été réalisé par le conseil. Et Harold ou Thomas pourront peut-être nous aider. Mais la sélection a été, le choix a été fait par le conseil lors de la réunion de la mise en place de l'examen du réexamen. Thomas, peut-être? Je n'ai pas les réponses à vos questions. Je n'ai pas de souvenir de tout cela. Mais si vous me passez ces questions par écrit, je vais... Oui, vous l'avez fait, vous attendez, c'est ça? Oui, car en fait, un des offrants qui essayait, qui voulait être à la place de Westlake, le 12 février, a envoyé un email à Denise Mitchell pour savoir pourquoi nous n'avons pas eu un entretien. Est-ce qu'il y avait un problème? Nous n'étions pas conformes avec l'appel d'offres pour améliorer pour la prochaine fois. Et ils n'ont jamais reçu de réponse. Excusez-moi, j'allais... Plutôt que d'utiliser le temps qui nous est alloué, je crois qu'il serait bon... En tant que présidente du groupe de travail, pourriez-vous me forwarder à moi tout ce que vous avez fait, les questions, etc. Je vais essayer d'avoir une réponse le plus rapidement possible. Je crois que c'est la meilleure manière de faire, car sinon nous allons un peu nous éloigner de la discussion ici. Donc je vous promets de vous répondre. Et j'aimerais que la réponse soit publique, car en fait, c'est une question, je crois que c'est une question que se pose un grand nombre de personnes autour de cette table. Donc, Nick et Richard qui souhaitent également vous répondre. Moi, j'ai essayé d'envoyer un email, mais malheureusement, j'ai des gros problèmes techniques. Donc, c'est peut-être une des explications. J'ai vu cette question. Dès que j'ai eu cette note disant que vous n'aviez pas une réponse de Denise, j'ai appelé Denise, justement. Et ce que je peux vous dire, c'est que le choix des offrants, le processus de sélection des offrants, cela a été réalisé par le comité de gouvernance de Roberto Gaetano, qui est également le vice-président et qui a été en relation avec At-Large. Donc, vous pouvez également lui poser la question. Posez-lui toutes ces questions sur le processus de sélection des offrants, car je ne sais pas ce qu'a reçu le conseil. Peut-être qu'ils ont tout simplement reçu un avis disant « Ah, vous devriez faire telle ou telle chose ». Bon, mais plutôt que... Maintenant, je vais essayer de vous apporter des réponses. Je vais poser les questions qu'il faut et... Je crois qu'il est important. Bon, nous ne pouvons pas changer le passé, c'est certain. Nous avons un rapport maintenant et Richard et son équipe ont travaillé d'arrache-pied. Donc, je crois qu'il est très important que nous essayions de voir où nous en sommes et pour aller de l'avant. Mais bien sûr, avec des questions, vos questions sont pertinentes et nous allons les poser. Nous allons essayer d'apporter des réponses. Mais comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous trouver les réponses à vos questions. J'espère que nous pourrons tourner la page et j'espère que cela ne va pas nous distraire de l'objectif qui est d'aller de l'avant. Richard. Madame la Présidente, merci. Cette question a été posée, bien sûr, au Conseil et plutôt à Westlake Consulting, mais j'aimerais qu'apparaisse au procès-verbal que nous avons répondu à l'appel d'offres le 20 juin 2007. Je crois que la date de fin était le 30 août. Notre réponse a donc été acceptée avant le délai, le premier délai. Donc que je sache, nous avons satisfait aux critères de l'appel d'offres. Je crois que nous avons satisfait aux critères de l'appel d'offres. Merci. Luc.
Back to the report.
Pour en revenir au rapport, le rapport donc est un point de vue extérieur sur la LAC. Et ma question était, je vais le dire au passé, quelques jours avant de venir ici. Est-ce que la LAC est vraiment centrée sur la base? Est-ce que réellement nous sommes centrés sur la base et nous allons vers le haut? Eh bien, ma réponse est non. Moi, je représente les utilisateurs, je fais partie d'une association. Je crois qu'en fait, non. Là, il y a des politiciens, des hommes politiques qui se représentent eux-mêmes. Et finalement, il n'y a pas de techniciens au sein de la LAC, ou en tout cas, pas tant que ça. Nous souhaiterions qu'il y en ait plus. Et je crois que les personnes les plus intéressantes d'un point de vue technique travaillent pour d'autres organisations d'appui ou d'autres organisations consultatives. J'ai essayé de lire la presse générale, j'ai regardé les programmes télé, les différentes émissions pour savoir si la réunion de l'ICANN avait un impact, un écho médiatique. Eh bien, non. Malheureusement, non. Je n'ai... Oui, ici, il y a quelques journalistes, mais de magazines techniques spécialisés. Et donc... Je crois que les utilisateurs n'auront pas de réponse, n'auront pas de rapport sur la réunion qui se tient cette semaine ici. Nous avons eu un impact il y a quelques années de cela. Nous avons eu une élection européenne. Et cela a eu une influence très importante sur les utilisateurs. Il y a eu des rapports, il y avait énormément de questions posées. Et je crois me rappeler également qu'il y avait une question des Catalans, d'organisation catalane, d'organisation basque aussi. Que va-t-il se passer avec les régions autonomes? Est-ce que nous allons avoir le top-level domain? Les Palestiniens nous ont posé également cette question. Et là, je pense plus particulièrement aux Palestiniens. Les Palestiniens savent-ils que la prochaine réunion de l'ICANN s'est faite au Caire ou va avoir lieu au Caire? Personne ne le savait, car les médias ne vont pas faire rapport sur notre réunion ici à Paris. Nous n'avons plus de base. Notre base, ce ne sont plus les utilisateurs, finalement. Donc votre rapport est très intéressant en ce qui concerne, par exemple, la distribution géographique. Mais j'ai le sentiment que l'Amérique du Nord et l'Europe sont en effet surreprésentées. Et j'aimerais, ou en tout cas je pense qu'il serait préférable qu'il y ait trois régions pour l'Asie-Pacifique. L'Asie-Pacifique, c'est une région beaucoup trop étendue. Wendy et ensuite Wolfgang. Je suis Wendy Sotzer, At Large Liaison au Conseil, et là je parle en mon nom propre. Ce qui me frappe, ce qui me préoccupe en ce qui concerne le rapport qui nous est présenté, c'est quelque chose qui m'a d'ailleurs préoccupé au cours du processus de construction de l'ICANN. On essaye de réinventer l'histoire sans pourtant réexaminer l'histoire. On essaye de réinventer les processus sans pourtant comprendre les processus qui avaient été mis en place par le passé. On essaye de réinventer les processus de gouvernance sans réfléchir vraiment aux aspects positifs et négatifs sans comparaison des autres systèmes, savoir quels sont les problèmes de tel ou tel type de gouvernance. Et la LAC, nous essayons que toutes les personnes intéressées puissent participer à un haut niveau, mais en fait, ils ne sont pas vraiment récompensés. Il semble que le rapport veut maintenir justement l'influence à liaison sans voix au chapitre, sans droit de vote, justement. Et il faudrait... Par contre, qu'on soit plus démocratique au sein de la LAC. Et donc, Et donc oui, il est important d'avoir un ensemble majeur de personnes, mais il faut que ces personnes aient le droit de vote. Je crois que par le vote, grâce au vote, nous avons des représentants qui s'impliquent plus, qui rentrent dans le détail, qui passent plus de temps, qui cherchent à comprendre les tenants et les aboutissants de toutes les questions traitées. Je crois qu'en tant qu'individu, il nous faut cette carotte, si vous me permettez l'expression. Donc, je suis préoccupé par le fait que le rapport ne parle plus donc de cette base qui a été l'expérience dans son système d'élection directe et que l'on compare cela aux structures complexes que sont les nôtres. Est-ce que cela exige vraiment un engagement très important de nos membres? Mais bien sûr, je pense, si nous faisons partie de la structure de l'ICANN, ce serait encore mieux. Et là, je crois qu'il y a un problème dans le rapport. Nous voulons des informations du groupe de révision, de ceux qui réexaminent les échecs et les bons résultats des structures de l'ELAC. Wolfgang, et ensuite Christopher Hung, Robert et Karl. Wolfgang. Moi, je suis d'accord avec Wendy, car comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis d'avis que certaines questions mineures sont discutées pendant des heures, alors que certains sujets primordiaux ne sont quasiment pas discutés. Je crois donc que parfois, les recommandations ne sont pas les plus pertinentes. Très souvent, nous oublions de discuter, nous n'analysons pas les choses correctement sur les questions les plus importantes, comme vient de le dire Wendy. J'aimerais faire quelques commentaires brièvement. En ce qui concerne la représentation géographique, je me demande pourquoi vous n'avez pas utilisé la structure de la task force de membres qui avait établi cette partie concernant les élections, car cette task force... Dans cette task force, il y avait 11 sous-régions. Même l'Europe a un problème. Il y a l'Europe centrale et orientale. Est-ce que nous allons mettre les anciennes républiques soviétiques, etc. Donc il y a eu un long débat et à la fin de ce début-là, nous avons dit nous avons 5 régions de base. Mais en ce qui concerne les utilisateurs, les membres individuels, n'oublions pas les élections, il faudra rentrer dans le détail. Et ça a été le résultat d'une longue discussion d'arriver à ces sous-régions. Et il n'y a aucune référence à cela dans votre rapport. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais je ne sais pas si vous avez couvert ce sujet. Deuxièmement, l'ICANN a une mission technique assez limitée. Peut-être que cela n'est pas si important. Les utilisateurs, c'est vrai, ont d'autres priorités. Mais nous en avons discuté en long et en large. Et je crois que les thèmes techniques spécifiques ont des implications politiques. Le WHOIS, oui, la protection des données, n'oublions pas les nouveaux CTLD, choix des consommateurs, liberté d'expression, etc. Il y a des sujets politiques très importants qui sont d'une importance fondamentale pour les utilisateurs, pour les ONG, etc. Oui, bien sûr, 1,3 milliard d'ONG, c'est peut-être trop. Mais lors des élections, nous avons 170 000 personnes qui voulaient élire. Donc il y a une communauté assez large quand même. Donc dire que le mandat technique de l'ICANN est assez limité, oui, pour certains aspects peut-être, mais ce n'est pas si correct que ça, puisqu'il y a des implications politiques énormes. Ensuite, Wolfgang, pardon, certains de nos invités doivent partir et ils voulaient... Est-ce que je peux dire mon dernier commentaire ? concerne la relation entre le Conseil et le comité at large. Je crois que Wanda l'a dit, entre le Conseil et les gouverneurs, nous avons des règles. S'il y a rejet par le Conseil de son avis, il faut des consultations, d'autres comités, etc. Donc, il n'y a aucune procédure en place en ce qui, si une recommandation vient comité consultatif at large, que va faire le Conseil? Et là, nous avons besoin d'améliorer nos statuts, d'analyser la situation en ce qui concerne les interactions, les actions entre le comité at large et le Conseil. Et là, il n'y a pas de proposition dans votre rapport. Merci. En effet, des points très importants. Alors, j'espère que vous avez pu prendre la température du débat. Nous savons que vous avez énormément de choses à faire. Nous allons, nous, continuer quelques minutes le débat, mais bien sûr, c'est un débat en cours. Donc, merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir souhaité la bienvenue. Merci de nous donner toutes ces informations.
OK, Christopher.
Christopher. Merci, Madame la Présidente. Pour rebondir sur ce que vient de dire Wolfgang, oui, il n'y a pas de contrepoids, je pense, aux GAC, les utilisateurs. Sans cela, nous allons devenir une société commerciale de fournisseurs d'accès, de services. Et là, nous allons rater le coche de politique publique. Il faut qu'il y ait équilibre. Et je crois que cet équilibre entre les deux forces, c'est ce qui va nous permettre d'être crédibles. Et je me rappelle à cet égard le débat à Los Angeles entre la communauté et le comité présidé par Karl Bielt. Et Madame la Présidente,
at least as far as my old bus.
Tous les liens sur le site de l'ICANN concernant le rapport ne marchent pas. Mais c'est peut-être mon ordinateur qui est un peu trop vieux, mais la consultation publique a commencé le 13 juin. Les consultations publiques se terminent le 27 juin. Mon ILS ne pourra pas préparer un rapport à mon RALO et mon RALO ne pourra pas le faire avant le 27 juin. Quelques commentaires sur les possibilités de langue, mais j'aimerais mentionner deux choses. Une note, c'est obtenez les documents de Westlake, ils apparaissent dans nos wikis. Nous allons nous assurer que ce mécanisme alternatif de consultation des documents Westlake soit mis en ligne. Et j'ai demandé une extension du délai en notre nom tous. Je vais suivre. Je vais ne plus suivre. Je vais donner la parole à Carl qui doit bientôt partir. Je suis Carl Auerbach. Bon. Moi, j'étais la personne élue au Conseil pour la MAC du Nord, une des personnes. Moi, j'ai un peu un conflit ici. Je suis là pour écouter, mais bien sûr, je ne peux m'empêcher de faire des commentaires. Je crois qu'il y a un problème de méfiance, un manque de confiance ici. Bien sûr, il est très facile de ne pas faire confiance aux traductions quand elles sont rapides. Il est facile de dire « Ah, les médias n'ont pas pris en compte telle ou telle chose. Ah, Westlake a été choisi en appel d'offres de manière un peu étrange, etc. » Attention, c'est un processus très difficile. Bien sûr, les suspicions peuvent voir le jour facilement, étant donné le type de procédure. Mais nous sommes tous des êtres humains avec des vies, des vraies vies. Donc, attention, laissons-nous respirer aussi. Je crois que l'ICANN, qui est un organe politique, n'oublions pas la politique, un organe en bonne santé, c'est quelque chose qui fait les choses et qui n'attend pas qu'on le fasse pour lui. Donc en ce qui concerne la traduction, vous parlez à la presse, etc., moi je vous suggère que dès que vous voyez un problème, eh bien, essayer de le résoudre. La plupart d'entre vous ont des meilleurs traducteurs que ceux de l'ICANN. Peut-être disposez-vous de plus de contacts auprès des journalistes, de la presse, de traducteurs. Donc, essayez de résoudre les problèmes également par vous-même. Je crois et que de cette manière, nous allons construire ce système de la base vers le haut, un système montant. Merci, Carl. J'ai Hong, Robert et ensuite Evan. Hong. Merci, Madame la Présidente. Bon, nous avons beaucoup parlé de la politique de traduction, bien sûr. N'oublions pas la valeur de la traduction. Et les lacs doivent inclure les communautés qui ont été exclues, marginalisées, ignorées par ce monde. Et je crois qu'il n'y a que chez nous que nous allons avoir des participants aussi spéciaux qu'un participant du Burkina Faso ou de Mongolie. Il n'y a que chez nous. Donc c'est un des éléments importants qu'il faut maintenir et pour que nous soyons at large. J'aimerais également mettre l'accent sur le fait qu'il nous faut évaluer les performances de la LAC et ne pas oublier uniquement nous faisons les façons de choses différentes. Il y a des différences culturelles. Il y a des messages dans la liste qui sont une offense pour les Asiatiques, pour la région Asie-Pacifique. N'oublions pas la Nouvelle-Zélande. Bien sûr, nous voulons être efficaces, mais dans le calme. Nous travaillons. Et parfois, il y a des commentaires disant que les gens en Asie ne font rien. Et ça, c'est vraiment injuste. Nous faisons beaucoup de choses. Nous contribuons énormément au processus de je pense aux migrations. Donc, nous faisons des choses. Et je pense à nos amis africains et d'Amérique latine, des pays en développement qui font beaucoup de travail et pourtant ne reçoivent pas certaines critiques. Les critiques, elles doivent être, si elles sont faites, oui, mais dans l'ensemble. Donc je crois qu'il faut corriger un certain nombre de choses. Merci, Hong. Et je crois... Alors, surtout que vous représentez la moitié de la population mondiale. Donc oui, n'hésitez pas à nous dire quels sont les problèmes. Et oui, n'oublions pas qu'il y a des différences linguistiques, mais également des différences culturelles. Et moi, je viens des antipodes, je ne l'oublie pas également. Merci de me redonner la parole. Je me rappelle être le premier orateur et j'ai été ravi d'entendre les différents commentaires. J'aimerais faire des commentaires sur les commentaires. Il est malheureux que mes commentaires ne soient pas entendus, écoutés par certaines personnes qui ont dû partir. Mais j'aimerais me concentrer sur un certain nombre de questions. Bien sûr, je suis très préoccupé par certains des commentaires qui ont été exprimés concernant le fait que nous ne représentons pas les utilisateurs, qu'il n'y a pas de spécialistes, de techniciens au sein de notre organisation. Et je pense qu'il y a incompréhension. C'est peut-être l'impression qu'ont certaines personnes. Et si c'est le cas, eh bien, il faut que nous leur démontrions que cela est faux. Moi, j'ai travaillé au bureau de liaison, et je m'en rappelle, mais on a beaucoup parlé également du changement de notre organisation. Et je crois que certaines choses n'ont peut-être pas été expliquées suffisamment, n'ont pas été démontrées, nous n'avons pas diffusé l'information. Et il faudrait peut-être mettre l'accent là-dessus. Bon, je suis peut-être trop diplomate, mais j'aimerais revenir également à certains points. On a parlé des langues, des différences linguistiques et culturelles. Dans le rapport, c'est quelque chose que nous aurions pu nous contribuer, c'est les défis auxquels nous devons faire face à l'heure de représenter les différents utilisateurs, les différents internautes. Et peut-être, nous avons parlé de l'engagement. et du temps que nous dédions à cela. Si ce comité doit grandir, et bien sûr, les choses vont être de plus en plus complexes. Cela va exiger plus de temps de notre part. Donc, cela doit nous amener à la question de la structure de notre organisation. Je ne le dis pas peut-être pour l'ALAC, mais lors des réunions de Los Angeles, nous en avons beaucoup parlé au sein du Conseil. Nous avons parlé de compensation, par exemple. Je ne dis pas que l'ALAC devrait avoir des compensations, mais si nous allons devoir fournir beaucoup plus de notre temps, il faudra peut-être à l'avenir en parler. Ensuite, il n'y a pas de comparaison en ce qui concerne les utilisateurs d'Internet, les internautes, savoir si les informations, leurs commentaires, s'ils sont bien pris en compte, en comparaison de ce qui se fait des informations fournies par les internautes par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc, je ne sais pas si des universitaires indépendants ont réalisé des études sur l'ICANN, l'ALAC, d'autres organisations. Si on veut en savoir plus sur la question de l'at-large, voilà un certain nombre de références, voilà un certain nombre de publications, de thèses universitaires, etc. Peut-être que si nous trouvions du travail et des comparaisons là-dessus, ce serait utile. Ensuite, n'oublions pas que nous voulons grandir. Bien sûr, c'est le défi, grandir et se développer. On nous dit donc que la Chine est maintenant l'utilisateur où il y a le plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde. Et pourtant, nous n'avons pas de matériel en mandarin. Notre prochaine réunion, bon, en tout cas, nous n'avons pas autant de matériel en mandarin que ce que nous pourrions souhaiter. La prochaine réunion sera au Caire, c'est le Moyen-Orient. La lingua franca, là-bas, c'est l'arabe dans cette région. Donc, est-ce que nous avons des rapports en arabe? Et surtout, avons-nous la capacité d'avoir des débats, des discussions en mandarin, en arabe, par exemple? N'oublions pas le russe, langue importante pour l'Asie centrale. Ces questions linguistiques se posent d'autant plus que nous nous développons. Cela devrait être incorporé au rapport, car ce sont des questions d'avenir. Et c'est quelque chose sur lequel nous pourrions réfléchir. N'oublions pas nos réunions et il serait bon d'intégrer ces autres utilisateurs qui ne sont pourtant pas là et avoir leur point de vue, leurs informations et commentaires. Evan? En fait, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Karl, mais comme il n'est pas là. Donc, le fait de s'auto-aider ou d'auto-résoudre les problèmes, traduction, etc. Lors de l'atelier de traduction de Delhi, j'ai lancé une question, peut-être un peu folle, mais que l'ICANN travaille en main dans la main et fournisse des traductions plutôt que de faire appel à des traducteurs professionnels. Et personne n'a rebondi sur cette idée, personne n'a réagi. Je crois que parfois, certains, oui, font les traductions et essaient de résoudre les problèmes, mais ensuite, on les remercie pas ou on les encourage pas. Ensuite, on parle de la méfiance. Il nous a dit, il ne faut pas qu'il y ait de méfiance, mais cette méfiance, elle existe. Moi, je la ressens, cette méfiance. Je pense, dans ma propre région, certains pensent que certains regroupements n'ont pas le droit d'avoir voix au chapitre. Il y a certaines personnes au sein de l'ICANN qui voudraient que nous nous transformions en trade association, en association purement commerciale. Donc avec cette méfiance, elle est là, elle existe et elle pose un problème dans un comité tel que le nôtre, at large. Et il faudrait donc comprendre, que soit compris au sein de l'ICANN, que la méfiance n'est pas sur ce que l'ICANN... Il y a une méfiance publique sur la direction que prend l'ICANN. Et ça, il faut absolument que l'ICANN le reconnaisse. Merci, Evan.
I guess 15.
Il nous reste 15 minutes pour conclure. Mais ceux d'entre vous qui se demandent pourquoi on revient sur les choses, eh bien, et qui pensent que ça a créé une confusion... Au début de la réunion, vous n'étiez peut-être pas dans la salle. Et on a mentionné qu'on commençait à 11h30 pour notre réunion et qu'il n'y avait pas moyen tel que nous allions pouvoir faire les choses dans cette durée de temps. Et qu'en fait, on commençait à 10h à la place. Ce que cela veut dire est qu'on a vraiment eu besoin de tout ce temps. Et ce que je ne considérais pas, c'est-à-dire que ce que nous avons véritablement dû prendre ou déplacer et de façon à éventuellement comprimer le temps plus tard dans la réunion. Lorsque le document sur les réunions, le rapport était très utile, les gens étaient là, pas là pour nous écouter, on parlait aux consultants, mais ils sont venus et ils voulaient avoir un sentiment de nos réactions et je pensais que c'était important de leur permettre de venir. Chacun souhaitait parler. On a profité de cette possibilité. Donc, une certaine flexibilité, oui. On a répété un certain nombre de choses, mais c'était nécessaire. Et il était nécessaire que les gens qui étaient présents à ce moment-là les entendent. Alors, vous avez probablement plusieurs millions de réponses aux questions qui ont été posées, mais on a très peu de temps. Donc, plutôt qu'essayer de résumer, je voudrais que ce que vous nous disiez précisément, quel est le processus qui va se mettre en place à partir de maintenant. Le concept, il faut qu'on ait répondu, par exemple, le 27 juin, ce genre de choses. À l'évidence, j'ai dit qu'on aurait besoin d'un peu plus de temps, mais ce serait bien si vous pouviez également couvrir ce qu'est le plan actuel, parce qu'il y a une série de possibilités à l'ALS, au niveau RALO, où nous devons nous organiser pour faire nos propres apports à ces différents stades. Merci, Madame la Présidente. Il y a deux commentaires que je souhaiterais ajouter pour répondre à un certain nombre des grandes discussions que nous venons d'entendre, celles de portée générale. Tout d'abord, je crois que je dois répondre à Wendy sur ce qu'elle a dit sur les élections directes et elle parlait d'élections directes au Conseil. La raison pour laquelle nous n'avons pas abordé cela, c'est qu'on nous demandait de revoir, de réviser la LAC, alors que il y a un appel d'offres sur l'examen du Conseil. Et je pense que cela va au-delà de ce qu'on nous avait demandé de faire. On pourra reprendre cette discussion ultérieurement si vous le souhaitez. Deuxièmement, sur la façon dont le Conseil utilise les conseils fournis par la LAC et les protocoles qui existent entre les GSC et leur Conseil, et lorsqu'il est rejeté par le Conseil et qu'il y a des protocoles, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des protocoles identiques entre le Conseil et la LAC. J'en ai pas discuté avec mes collègues, mais enfin, je crois que l'élément le plus significatif à cet égard, c'est que les points de vue qui ont été exprimés à partir de gens qui sont et qui ont été au Conseil, c'est de pouvoir engager des discussions avec la LAC sur les questions de politique d'orientation. Mais il y a véritablement une demande de fournir ou un risque qu'on ait cet engagement de la communauté dans son ensemble. Et mes collègues ne peuvent pas résister à ce type d'engagement, me semble-t-il. Le processus, à partir de maintenant, c'est qu'on nous a dit que nous devions fournir un projet final de rapport pour cette réunion, ce qui est ce que nous avons fait. Et l'idée était qu'après cette réunion, nous allions pour l'essentiel corriger un certain nombre de faits et améliorer un petit peu le format, peut-être aborder un certain nombre de points s'il semblait qu'on avait laissé des lacunes. Et il y a un ou deux points qui ont été posés ce matin que nous devrons prendre en compte. Je vous rappellerai également que lorsque nous avons été engagés en février au départ, on avait proposé que cette réunion soit une réunion discussion et réaction, après quoi on ferait un rapport final. Et ce n'est pas cela qu'on nous a demandé au bout du compte. On nous a demandé d'apporter nos recommandations à cette même réunion, ce qui est ce que nous avons fait. Et
Je ne vais pas aller discuter plus avant, ce ne serait pas approprié, mais nous avons suivi notre mandat. Et il y a un certain nombre d'aspects que nous souhaitons améliorer et régler. Sur ce qui est du calendrier, cela dépendra de ce que veut le groupe de révision. Il y aura une période de commentaires. Il y a une période qui figure dans les statuts qui permet des commentaires une fois que le groupe de compte-rendu a fait son rapport, comme l'a dit Patricia. Elle voyait cela comme le début de la période de consultation et il y aura toute une série de possibilités d'envoyer des documents avant que le Conseil considère que cet examen et les autres qui ont été vus ces dernières années arrive à un stade final. C'est un excellent résumé parce que je crois qu'avec un certain nombre des LS, il y avait des craintes qu'il y ait une fenêtre très étroite. Et ce qu'a dit Tricia, et que vous avez répété, c'est que c'est le début d'un processus et en aucun cas le milieu et encore moins une fin. Les questions que nous devrons aborder dans cette journée vont se concentrer sur la façon dont on crée des interactions entre la base, les ALS et les autres groupes pour les amener au niveau de la LAC, que ça se fasse de façon plus efficace, de façon plus documentée. Et je propose qu'on considère que nous avons une très grande possibilité de travailler sur ce sujet-là en tant qu'exemple. Et quand on va se diffuser, je crois qu'au cours de la pause déjeuner, on voit des réponses régionales qui ne sont peut-être pas le sujet idéal sur lequel travailler, plutôt qu'un certain nombre des autres questions de politique. Je vous y laisse réfléchir au cours du déjeuner. Je voudrais remercier Richard et son équipe. Vous avez véritablement couru le marathon ce matin et véritablement tous mes remerciements. Et je pense qu'il serait approprié quand vous applaudissent comme il se doit. Nous allons déjeuner jusqu'à... On devait commencer à 13 heures, mais ce n'est pas une mauvaise idée de commencer un peu avant. Il y en a qui veulent juste des sandwichs. On va se retrouver à... Le premier briefing commence à 13h30. Il ne peut pas commencer en retard parce que Tina et d'autres doivent partir à l'heure parce qu'ils doivent donner un briefing au Conseil. Donc, c'est un petit peu complexe de prévoir cela. Donc, j'espère qu'il y aura suffisamment de monde à 13h30. Donc, je vais limiter. On va se retrouver à 13h20, tous. Nous aurons une série briefings et puis ensuite, on passera au système des petits groupes. Ça, c'était trop important pour n'être pas couvert ce matin. Donc, on a des rapports comme celui-ci pour les activités de petits groupes. Donc, vous allez déjeuner où vous voulez, mais vous devez être de retour à 13h20. Merci.